Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Superbe, sublime, merveilleuse. Sauf que ce gars-là est quand même rationnel et pragmatique. Ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te dire...
Un politologue pas comme les autres. Loïc Tassé.
C'est pas le temps de faire ça.
Loïc, bonjour.
Salut Benoît.
Alors, la Chine a trouvé un bouc émissaire dans quel but?
Ben oui, ben écoute, ça pouvait pas être la faute de Xi Jinping. J'espère que hier, quand je te disais que c'était la faute de Xi Jinping ce qui arrivait, tu pensais non, tu te disais ce pauvre Loïc délire, c'est pas Xi Jinping. Parce qu'on a appris qui étaient les vrais coupables. C'est des fonctionnaires locaux. C'est des petits fonctionnaires locaux qui ont trop bien appliqué les mesures, qui ont fait du mur à mur sans les adapter. Voilà qui sont les vrais coupables. C'est pas du tout Xi Jinping, tu vois.
Ah, là, ça me rassure.
Oui. Ben oui. Et c'est un peu aussi la faute des autorités de la santé publique. C'est aussi de leur faute parce que elles aussi ont des mesures qui auraient dû être un peu plus adaptées. Alors, elles vont adapter davantage leurs mesures. Mais Xi Jinping a rien à voir là-dedans. C'est pas lui qui a centralisé tous les pouvoirs. C'est pas lui qui demande à être à la tête de tous les comités de santé. C'est pas lui qui a dit que la priorité allait à la lutte à la COVID. Non. C'est pas lui qui a fait ça. Bon, c'est pas du tout un dictateur.
Mais ça me rassure qu'on ait trouvé des vrais responsables.
Ah ben oui.
Hein? On peut passer à un autre sujet.
C'est je crois que les Chinois vont aussi faire ça. Ils vont sûrement passer à un autre sujet. Hein? D'autant plus qu'on a décidé de les aider à faire ça. On a décidé d'envoyer massivement la police dans les rues, là où ils manifestaient. Ça aussi, ça aide beaucoup. On a fait des arrestations des gens qui étaient là, qui manifestaient, et surtout ceux qui criaient des slogans. Eux ont été arrêtés aussi. Qu'est-ce qu'on a fait pour les aider aussi à passer à un autre sujet? Ah ben on a envoyé des policiers avec des caméras pour filmer les gens, les visages des gens, pour les arrêter plus facilement, tu vois. Toutes sortes de mesures qui aident les gens à passer à d'autres sujets aussi en Chine. Je suis pas sûr, par exemple, que ça marche si bien que ça.
Aie confiance.
Parce que les gens sont... Les gens sont plutôt choqués. C'est que le gouvernement a reculé un peu aussi. Et ça, c'est toujours un danger avec ce genre de mesures. Comme je te le disais, il vaut mieux qu'ils reculent, puis qu'ils reconnaissent une partie de ses erreurs, puis bah. Mais en même temps, quand tu fais ça, il y a le danger que les gens se disent « Ah ben ça a marché, on va redescendre dans la rue pour d'autres choses. » Et le gouvernement chinois en ce moment, l'économie chinoise ne va pas bien. Il y a 20% de chômage chez les jeunes. L'économie va pas vraiment très bien non plus. Il y a le tiers des villes qui ont de graves problèmes, qui sont en fermeture finalement. Et donc, on va voir où ça va aller. Mais au moins... Le gouvernement a dit qu'il ferait des campagnes de vaccination massive chez les personnes âgées, dans la population en général, ce qui pourrait aider. Le seul problème, c'est que leur vaccin, ben, c'est pas un vaccin efficace. Il est à peu près pas efficace contre la COVID-19. C'est-à-dire contre le variant Omicron de la COVID-19. Mais hormis ce détail, ça pourrait aller.
Bon, et pendant ce temps, l'OTAN prévoit d'autres frappes russes.
Oui, elle a averti qu'il allait y avoir des frappes russes. Il y a une grande réunion des ministres de la défense de l'OTAN aujourd'hui, et des affaires étrangères, pardon, de l'OTAN aujourd'hui. Et donc, ils se sont réunis, ils ont émis un communiqué conjoint, et ils sont très durs dans ce communiqué conjoint. D'abord, ils réaffirment qu'ils sont en faveur de l'indépendance, de la souveraineté et de l'intégralité territoriale de l'Ukraine, d'accord, mais ils condamnent la Russie pour sa cruauté contre des civils. Ça, quand on emploie le terme de cruauté en diplomatie, là, ça commence à être très, très fort. Contre les violations des droits humains, ils disent, écoutez, on condamne les déportations, la torture, le traitement barbare des femmes, des enfants, des personnes vulnérables, etc.
Ça ressemble à des crimes de guerre, ça, Loïc?
C'est des crimes de guerre. C'est ce que d'ailleurs, il y avait une autre réunion des ministres de la justice du G7 qui se tenait à Berlin aujourd'hui, et ils ont dit, vous commettez des crimes de guerre. On en a recensé 50 000 jusqu'à présent, il y a 600 000 personnes jusqu'à présent qui ont été identifiées, et vous êtes en train d'utiliser l'hiver comme une arme, et c'est un crime de guerre ce que vous faites. C'est encore un langage extrêmement dur. Et attention, on ne pourra pas avoir les Russes longtemps comme ça. À un moment donné, c'est ta solution, Benoît, qui va commencer à primer. C'est-à-dire qu'on va demander à la plupart des diplomates russes, je ne pense pas qu'on ferme les ambassades, mais on va leur dire, vous allez quitter, là. Parce qu'on ne peut pas faire affaire avec des gens qui sont aussi barbares. On va diminuer le nombre de diplomates russes chez nous, puis on va le diminuer sensiblement.
Mais là, l'OTAN se rallie derrière l'Ukraine.
Bien sûr que l'OTAN se rallie derrière l'Ukraine. Bien sûr que l'OTAN continue à soutenir l'Ukraine. Et d'ailleurs, on va envoyer massivement de l'aide à l'Ukraine pour rétablir les infrastructures vitales. Il y a les États-Unis, par exemple, qui viennent tout juste de débloquer 55 millions de dollars juste pour les réseaux d'électricité, pour les reconstruire. Mais les Russes continuent à bombarder. Ils bombardent toutes les agglomérations qui sont le long du fleuve Dniepr. On en a parlé du Dniepr déjà. Tu sais que les Russes sont allés de l'autre, sont sur une rive, sur la rive droite, et les Ukrainiens sont sur la rive gauche. Eh bien, les Russes maintenant bombardent toutes les agglomérations de la rive gauche où ils étaient il y a quelques semaines, qu'ils occupaient il y a quelques semaines. Maintenant, ils sont en train de détruire toutes ces agglomérations. Et tout ça, ça donne franchement la nausée de voir la façon dont les Russes se comportent. Et je ne sais pas jusqu'où ça va aller, mais je pense pas que... je suis pas sûr que... Il est à peu près certain que les mesures actuelles sont insuffisantes, mais je suis pas sûr que...
Ça va pas arrêter la Russie.
Oui, vis-à-vis de la Russie. Je pense qu'il va falloir aller plus loin.
Ouais. Le Canada, la Hollande et l'Équateur demandent la création d'un tribunal international de lutte à la corruption.
Une belle nouvelle, ça, inattendu un petit peu. Et ils étaient donc, ils sont en Hollande, et ils ont dit, oui, il faut lutter contre les États kleptocrates, etc. Bien sûr, qui font du vol. Disent ces gens, il y a 2000 milliards de dollars par an qui sont perdus à cause de la corruption. Et donc, faut lutter contre ça, faut faire un tribunal. Et ce qu'on va faire, et d'ailleurs, de toute façon, il y a 181 pays sur 189 qui ont signé la convention de l'ONU contre la corruption, donc normalement, n'est-ce pas, ils devraient être d'accord avec ça, mais on dit surtout que ce tribunal pourrait s'adresser à pourrait servir aux lanceurs d'alerte, à des gens qui sont témoins de corruption dans leur pays, mais qui ne peuvent pas vraiment la dénoncer parce que les hautes instances de leur pays sont elles aussi corrompues. Donc, en envoyant ça à ce tribunal-là, ça pourrait peut-être fonctionner. On sait qu'il y a encore de nombreux obstacles à franchir avant que ce tribunal voie le jour, mais disons que c'est quand même un pas dans la bonne direction et ça vaut la peine d'être mentionné.
Bon, et finalement, c'était la nièce de l'ayatollah Khamenei.
Oui, je t'avais promis de t'en parler. C'était pas sa fille, c'était sa nièce qui s'appelle Farideh Morakhdani. Sa nièce, qui avait déjà été arrêtée le 13 janvier dernier parce qu'elle avait critiqué le régime, elle avait été ensuite libérée sous caution, a dit quelque chose d'épouvantable. Je comprends, elle vient d'être arrêtée le 23 novembre. Elle a dit au pays libre de cesser de soutenir, je cite, ce régime meurtrier qu'est l'Iran. Alors évidemment, tu peux pas dire ça en Iran. Donc, elle a été arrêtée, comme je te disais, le 23 novembre, et condamnée à 15 ans de prison. On ne sait pas exactement sous quel motif, mais Farideh Morakhdani, elle est la nièce de Khamenei, qui est le grand dirigeant de l'Iran, et sa mère était la sœur, et toujours la sœur de Khamenei, mais sa mère a fui l'Iran dans les années 80. 1980, et le père de cette femme était un religieux dissident. Donc, elle est connue pour ses critiques du régime, mais c'est sûr qu'elle a un poids politique, moral extrêmement fort en Iran, et ça ennuie probablement Khamenei énormément de voir sa nièce dressée comme ça contre lui.
Se dévoiler, d'appuyer les femmes en Iran. Ouais.
Mais il y a des vidéos qui circulent qui sont extraordinaires en Iran. J'en ai vu une encore hier, de gens qui sont sur les quais d'une station de métro. Tu sais, imagine Berri Ucam à l'heure de pointe, avec plein de gens de chaque côté. Mais les gens battent du pied et hurlent des slogans contre le régime pour la laïcité, Benoît. Pour la démocratie laïcité.
C'est bon. Alors qu'ici, au Québec, c'est l'inverse. On bat du pied imposer la religion à tout un chacun. C'est pas pire.
Oui, puis au nom de la démocratie, on est en train d'essayer de détruire la démocratie en demandant la proportionnelle de plus en plus. Alors, avec la représentativité à toutes les sauces, comprennent pas ce que c'est vraiment la démocratie, ces gens-là. Mais ça, c'est une autre question.
Et qu'on fera demain sans faute. Loïc Tassé, merci. À demain.
Salut, Anne-Marie.